Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 37, Daf Lamed Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Nous lisons selon la Shitam Kubetzet, Rabbi Yossi Hacharum Omer. Rabbi Yossi, dont l'os du nez était enfoncé au niveau des yeux, disait Matsinu Yamin Shenikrayad, nous avons trouvé un pasouk où nous voyons que la droite est appelée aussi la main. Shenemar, parce que le pasouk dit dans Bereshit Memchet, Bayar Yosef ki ashit aviv yad yemino, etc. Yosef vit que son père posait sa main droite sur la tête de Ephraïm. Nous voyons donc que le pasouk désigne la droite par le terme de yad, la main. Finalement, on ne pourra pas prouver des psukim que nous avons vus précédemment que le terme de yad désigne la gauche. La Gemara répond, Ve'idach, et l'autre, c'est-à-dire le premier auteur de la Braïta pense, Yad Yemino Ikre. Il est vrai que le pasouk désigne la main droite par l'expression Yad Yemino, la main droite, Yad Stama Lo Ikre. Cependant, nous ne voyons nulle part que le pasouk désigne la main droite par le terme de Yad simplement. Par conséquent, nous pouvons conclure que lorsque le pasouk emploie le terme de Yad simplement, il veut désigner la gauche. Rabbi Nathan Omer, Eno Tsarich, nous n'avons pas besoin de cette déduction. Et cela parce que Har et Omer, voici que le pasouk dit dans Dvarim Vav concernant la mitzvah de Tfilin, suivi de la mitzvah de Mezouza, le pasouk dit Ukshartam, le hot aliadcha, etc. Ukhtavtam, et tu les attacheras en signe sur ta main, etc. Puis tu les écriras sur les montants de ta porte. La Torah juxtapose donc la mitzvah de Tfilin à la mitzvah de l'écriture de la Mezouza. Nous pouvons les comparer et dire « Maktiva bimin » de la même manière que l'écriture se fait en général avec la main droite, parce que la majorité des gens sont droitiers. « Afkshira bimin » ainsi aussi le fait d'attacher des tefilines doit être effectué avec la main gauche. « Vekivan dekshira bimin » et puisque le fait d'attacher les tefilines doit se faire avec la main gauche, « Hanachabis molhi » forcément les tefilines seront attachées sur la main gauche. Ainsi, ils pourront être attachés avec la main droite. La Gemara demande « Verabi Yossi acharum hanacha de bismol menale » d'où est-ce que Rabbi Yossi, dont le nez est enfoncé au niveau des yeux, que les tefilines de la main sont attachées à la main gauche? La Gemara répond « Nafkale, mehecha de nafkale, le Rabbi Nathan » il l'apprend du même endroit que Rabbi Nathan l'a déduit, comme nous l'avons vu dans la Braïta. « Ravashi amar, miyadcha » il l'apprend du pasouk dans Shemot Yud Gimel, qui écrit le terme de « yadcha » d'une manière particulière, « ktiv behe » En effet, il y a un « he » supplémentaire à la fin de ce mot. Ainsi, ce terme de « yadcha » avec le « he » supplémentaire peut être interprété comme étant une contraction de deux mots « yad keha », la main faible, puisqu'en général, une personne est droitière, sa main gauche est la main la plus faible. C'est donc sur celle-ci qu'il faudra attacher les tefilines. Amar le, Rabbi Abba le Ravashi, Rabbi Abba a posé la question suivante à Ravashi, « ve'ema yadcha shebekoach » Peut-être que ce terme de yadcha avec le S supplémentaire sera interprété comme une contraction de deux mots yad et koach, la main forte. On devrait conclure donc que les tefilines doivent être attachées sur la main droite. Amarle, Ravashi lui a répondu, miktiv bechet, est-ce que le pasouk a ajouté un chet supplémentaire? Pour pouvoir interpréter ce terme comme étant une contraction de deux mots yad et koach, il y a au contraire un he supplémentaire. Nous interprétons donc ce mot comme étant une contraction de deux mots, yad et keha, qui veut dire donc main faible. La Gemara dit, ketanaï, cette interprétation dépend d'une discussion entre des tanaïm. Lorsque le pasouk dit yadcha behe avec un he supplémentaire, zousmol, le pasouk parle de la main gauche, comme nous l'avons expliqué. Acherim omrim, d'autres disent, il s'agit de Rabbi Meir, yadcha, lorsque le pasouk ajoute ce he supplémentaire, le rabot et agidem, c'est pour inclure celui dont la main a été sectionnée, il attachera les tefilines à sa main gauche puisque son bras existe encore. Selon cette interprétation, le terme du yadcha, yadkeha, voudrait dire main incomplète. Tanya Idach, il est enseigné dans une autre braïta, enlozroa, une personne qui n'a pas de bras gauche, donc à partir de l'épaule, patur mina tefilin, est exemptée de la mitzvah de tefilin. Acherim orim, d'autres disent, il s'agit de Rabbi Meir, yadcha, le terme de yadcha avec le he supplémentaire, le rabot et tagidem, vient inclure celui dont la main était sectionnée, mais dont le bras existe encore. Comme le précise le Tosfot, il n'y a pas de discussion entre ces deux auteurs, mais le premier auteur de la Braïta parle de celui qui n'a pas de bras, tandis que Acherim parle de celui qui n'a pas de main. Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta, Iter, le gaucher, meniach tfilin bimino, attachera cette tfilin sur son bras gauche, chez Usmolo, qui est en fait son bras gauche, c'est-à-dire c'est son bras le plus faible. La Gemara demande à Tania, pourtant il est enseigné dans une Braïta, meniach bismolo, le gaucher attache les tfilin sur son bras gauche, chez Usmolo, chez le kol adam, qui est en fait le bras gauche de tout homme, contrairement à la première Braïta. La Gemara répond, Amar Abaye, ki Tania ahi, de quel cas parle cette seconde Braïta, Becholet Bishteyadav, dans un cas d'une personne gauchère, mais en fait, qui a le pouvoir d'utiliser ses deux mains. Dans ce cas, il sera considéré comme tout homme qui attache les tfilines sur son bras gauche. Tana de Bemenaché, il est enseigné une Braïta dans le Beta Midrash de Menaché. Aliadra, sur ton bras. Zoukiboret, le pasouk parle du biceps, donc c'est sur le biceps qu'il faut attacher les tfilines. Benenecha, entre tes yeux, Zoukodkod, c'est le haut du crâne, c'est-à-dire à l'emplacement du cuir chevelu. La Gemara demande Hecha, où est-ce qu'il faut attacher les tfilines? Sur le cuir chevelu. La Gemara répond, Amre de Be Rabbi Anai, les Chachamim du Beta Midrash de Rabbi Anai disent, mais comme chez Mocho Shel Tinok Rofes, il faut mettre les tfilines à l'emplacement où le crâne du bébé est mou, c'est-à-dire sur la fontanelle. En fait, comme le précise le Tosfot, les tfilines doivent être placées entre la fontanelle et la limite des cheveux. Aminé Plimo Mirebi. Plimo a posé la question suivante à Rebi. Mishi Eshlo Shne Rashim, celui qui a deux têtes, Be'eze Mehen Maniar Tfilin, sur quelle des deux têtes portera-t-il les Tfilin? Amarle, Rebi lui a dit, O Kum Gale, ou bien va en exil, O Kabel Alar Shamta, ou bien accepte sur toi un banc d'excommunion. C'est-à-dire, Rebi s'est mis en colère parce que Plimo lui a présenté un cas impossible. Parce que, comme l'explique le Mordechi, même si, comme nous le verrons par la suite, il peut avoir un cas d'un enfant qui naisse ainsi, cependant, il n'atteindra pas l'âge de 13 ans pour avoir l'obligation de porter les tfilines. Voir cependant le Gilyon Marsha en ce qui concerne les jumeaux siamois. Adahi, juste à ce moment, Atahahu Gavra, un homme est venu et s'est présenté devant Rebi, à Marley, il lui a dit, Ityalidli Yinuka Ditle Trereche. Un enfant à deux têtes est né chez moi. Kama bainan le mitav le kohen. Combien est-ce que je dois donner au kohen? Parce qu'il est vrai que la Gemara dans Bechorot Daf Memchet dit qu'en ce qui concerne une naissance de jumeaux, premier-né, il n'y a l'obligation de payer au kohen qu'une somme de 5 slaïm. Mais cela uniquement parce qu'ils ne peuvent pas naître ensemble. Forcément, il y en a un qui naît après l'autre. Mais dans ce cas d'un enfant à deux têtes, puisque ces deux têtes sont nées ensemble, il est possible qu'ils doivent payer 10 laïm comme deux enfants premiers-nés. Ata Hahu Saba, un vieux sage est venu, Tanale, il lui a enseigné la braïta suivante, que dans ce cas, Chayav Litenlo Yud Slaïm, il a l'obligation de donner au Kohen 10 laïm comme s'il a eu deux premiers-nés. La Gemara demande, Eni, ce n'est pas vrai. Vehatan et Rami Bar Chama, pourtant, Rami Bar Chama a enseigné une braïta qui interprète le pasouk dans Bamidbar Yutret, concernant l'obligation de racheter le premier-né. Mitor chez Nehemar, puisque le pasouk dit Pado tivde et Bechora Adam, racheter, tu rachèteras le premier-né de l'homme. Cette répétition du terme de Pado est une inclusion. Shomeani, je pourrais entendre de là, donc apprendre de là, Afilunitraf Betor Lamed, même si cet enfant a été tué pendant les 30 jours. C'est-à-dire, il est vrai que dans le cas d'un enfant qui meurt pendant les 30 jours, parce qu'il est né prématuré, le père est exempté de la mitzvah de le racheter, mais dans le cas où il a été tué, donc lorsqu'il est né, il était viable, on aurait pu dire que le père soit obligé de le racheter. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit. Nous...
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf. La Metzah et la Moudbet, le Passouk commence par le terme de « Ach » seulement. C'est une exclusion, « Chilek », il y a donc là une différence. Autrement dit, nous apprenons de ce passouk que le père aura l'obligation de racheter son premier-né seulement dans le cas où il vit au bout de 30 jours. Sinon, il n'aura pas l'obligation de le racheter. De la même manière que nous excluons de ce passouk l'enfant qui a été tué mais qui n'est pas né prématuré, on pourrait exclure aussi de ce cas un autre enfant qui n'est pas né prématuré mais il est atteint d'une malformation mortelle qui le rend très fat et par conséquent il mourra même après les 30 jours. Puisque c'est ainsi, dans le cas d'un enfant à deux têtes qui n'atteindra pas l'âge de 13 ans, il mourra donc très jeune, on pourrait le considérer comme étant un enfant très fat qui serait exempté de la mitzvah du rachat du premier-né. La Gemara répond, Shani acha, ici c'est différent, de begul golet tala rachmana. La Torah fait dépendre l'obligation de racheter le premier-né du nombre de têtes. En effet, le pasouk dans Bamidbar Gimel, concernant le rachat des premiers-nés dans le désert, le pasouk dit, Chameshet shkalim la gulgolet, 5 shekels par tête. De ce pasouk, nous apprenons que pour chaque tête, il faut payer une somme de 5 sela. Par conséquent, dans le cas d'un enfant à deux têtes, il faudra payer deux fois cette somme. Si cet enfant atteint l'âge de 30 jours, même si nous savons que cet enfant ne vivra pas longtemps. Puisque c'est ainsi, comme le précise le Yashar Vatov, qui se trouve imprimé dans le nouveau Asifat Zkenim sur Masechet Menachot, on n'a plus de raison de comparer le cas d'un enfant atteint d'une malformation mortelle qui le rend très fat au cas d'un enfant qui a été tué pendant les 30 jours. Mais plutôt, nous dirons que même l'enfant très fat est concerné par l'obligation du rachat des premiers-nés. Amarmar, la Gemara reprend le passage de la Braïta que nous avons vu précédemment. Yadra, lorsque le pasouk emploie le terme de Yadra concernant les tefilin, tombera, Zuki Boret, le pasouk parle du biceps. La Gemara demande Menalan, d'où le sait-on? La Gemara répond de Tanoura Banan parce qu'il est enseigné dans une Braïta. Lorsque le pasouk dit dans Shemot Yud Gimel, Al Yadra, sur ta main ou sur ton bras, Zu Gova Shebayad, il s'agit de la partie haute de la main, donc le biceps qui se trouve proche de l'épaule. Alors, la Braïta demande à Taomer Zugova Shebayad, est-ce que tu dis vraiment qu'il s'agit de la partie haute de la main, donc du bras, O Eno Ela Aliadra Mamash, ou bien est-ce que tu diras que le pasouk parle réellement de la main, et c'est donc sur la main qu'il faut attacher les tefilin? La Braïta répond, Amra Torah Hanach Tfilin Beyad, la Torah dit, mets les tefilin sur la main, ve Hanach Tfilin Berosh, et pose les tefilin sur la tête. Ma la'alan begova sheberosh, de la même manière que là-bas concernant les tefilines de la tête, comme nous le verrons par la suite, il faut mettre les tefilines sur la partie haute de la tête, c'est-à-dire sur le cuir chevelu. Afkan begova shebiyad, ici aussi concernant les tefilines de la main, il faudra les mettre et les attacher donc sur la partie haute de la main, donc sur le biceps qui se trouve proche de l'épaule. Rabbi Eliezer Omer et Notzarich, nous n'avons pas besoin de ce mode de déduction. Et cela parce que Haré Omer, voici que le pasouk dit dans Shema Tud Gimel, Behaya lecha leot, et ces tefilines de la main seront pour toi un signe. Le terme de lecha est en plus pour nous enseigner, lecha leot, il faut que ces tefilines soient pour toi un signe, velo l'acherim leot, mais pas qu'ils soient un signe pour des autres. Ce qui suggère que les tefilines doivent être attachées dans un endroit qui est généralement couvert, alors que la main elle-même est toujours découverte, forcément donc, les tefilines seront attachées sur le bras, qui est généralement couvert. Rabbi Yitzhak Omer et Notzarich, nous n'avons pas besoin de cette déduction. Et cela parce que Haré Omer, voici que le pasouk dit dans Dvarim Yudalef, concernant les tefilin, Vesamtem et Devaray Ele al Levavrem, et vous mettrez ces paroles-là sur votre cœur, Ukshartem, et vous les attacherez, etc., sur votre main. De là, nous apprenons de cette juxtaposition, Shetehe Sima Keneged Alev, que les tefilin doivent être mis en face du cœur, donc sur le biceps qui se trouve au niveau du cœur. Rabbi Chia verav acha bered rav avia mechaven umanachle lehadelibe. Choisissez soigneusement l'endroit où attacher les tefilin de manière à ce qu'ils soient fixés au niveau du cœur. Rav Ashi hava yativ kameh de amemar. Rav Ashi était assis devant amemar. Hava tziraya beade. Il avait une plaie dans son bras. Il avait pratiqué une fente dans son habit au niveau de la plaie, pour éviter qu'il y ait une pression sur celle-ci. Le kamitrazian tefilin et les tefilin de Rav Ashi étaient donc visibles de l'extérieur. אמר לי, אמימר עדי הרבשי לא סבר לה אמר לך לאות ולא לאחרים לאות. Est-ce que mon maître ne pense pas que, comme nous l'avons dit précédemment, les tefilines doivent être un signe pour toi et non pas un signe pour d'autres personnes? De là, nous apprenons qu'ils ne doivent pas être visibles de l'extérieur. Amar le, Ravashi lui a répondu, Bimkom lecha leot itmar, ce que la Braïta veut dire, donc ce que Rabbi Eliezer veut dire, c'est que les tefilines doivent être attachées dans un endroit qui en général ne serait pas un signe pour d'autres personnes, autrement dit dans un endroit qui est en général couvert. Mais si l'habit s'est déchiré et les tefilines sont visibles de l'extérieur, il ne sera pas nécessaire de changer l'habit pour accomplir cette mitzvah de tefilin. La Gemara demande, Gova Shebarosh Menalan, d'où sait-on que les tefilines de la tête doivent être posées sur la partie haute de la tête, c'est-à-dire sur le cuir chevelu? La Gemara répond, Detanu Rabbanan, parce qu'il est enseigné dans une braïta. Lorsque le pasouk dit Benenecha entre tes yeux, Zu Gova Shebarosh, il s'agit de la partie haute de la tête, c'est-à-dire sur le cuir chevelu. La braïta se demande, Ata Omer Zu Gova Shebarosh, est-ce que tu dis qu'il s'agit réellement de la partie haute de la tête, O Eno Ela Benenecha Mamash, ou bien est-ce que le pasouk veut dire réellement entre tes yeux, et c'est là-bas qu'il faudra poser le tefilin? La Braïta répond, Ne'emar kan benenecha. Le pasouk emploie ici l'expression de benenecha entre tes yeux. Ve'ne'emar le'alan. Et là-bas, dans Dvarim Yudalet, le pasouk dit, Lotasimu korcha benenechem lamet. Ne mettez pas de partie chauve, c'est-à-dire ne vous arrachez pas les cheveux entre vos yeux pour un mort. Nous appliquerons donc une xerashava dont le support est le terme de benenecha. Et nous dirons, Ma le'alan. De la même manière que là-bas, ce qui concerne l'interdiction de s'arracher les cheveux pour un mort, le terme de Benenechem veut dire Begova Shebarosh Mekom Shosekocha, dans la partie haute de la tête, dans un endroit où il peut avoir des parties chauves, c'est-à-dire sur le cuir chevelu. Afkan, ici aussi en ce qui concerne la mitzvah de Tfilin, le terme de Benenecha voudra dire Begova Shelrosh Mekom Shosekocha, dans la partie haute de la tête, dans un endroit où il peut avoir des parties chauves, c'est-à-dire sur le cuir chevelu. La suite du shiur sera sur la prochaine cassette. Nous sommes Masechet Menachot, Daf Lamed Zayin Amud Bet, à la 24e ligne du haut de la page. Nous sommes au milieu d'une braïta qui explique d'où nous savons que les tefilines doivent être posées sur la partie haute de la tête, c'est-à-dire sur le cuir chevelu, alors que le pasouk dit clairement Benenecha entre tes yeux. Le premier auteur de la braïta a proposé une xerashava à partir de l'interdiction de s'arracher les cheveux pour un mort, où la Torah a aussi employé l'expression de Benenechem entre vos yeux. Là-bas, il est évident que s'arracher les cheveux ne peut se faire que sur le cuir chevelu. Nous apprenons par cette Xerashava que les tefilines doivent être posées au même endroit, donc sur le cuir chevelu. Rabbi Yehuda Omer et Notzarich, nous n'avons pas besoin de cette déduction. Cela parce que Amra Torah Hanar Tefilin Bayad, Hanar Tefilin Barosh, la Torah dit, mets des tefilines sur la main et met des tefilines sur la tête. Ma lehalan, de la même manière que là-bas en ce qui concerne les tefilines de la main, bemakom haraoui litame benega echad, il s'agit d'un endroit qui ne peut être frappé que par un seul type de lèpre. Il s'agit de la lèpre de la peau, dont le signe d'impureté est un cheveu blanc. Afkan bemakom haraoui litame benega echad, ainsi aussi pour les tefilines de la tête, ils devront être posés dans un endroit qui ne peut être atteint que par un seul type de lèpre. La fouke benenecha, cela vient exclure entre tes yeux, qui est un endroit qui peut être atteint par deux types de lèpre. En effet, deika basar, il y a la peau du front qui peut être atteint par la lèpre de la peau, dont le signe de l'impureté est le cheveu blanc, comme nous l'avons dit. Vesear, il y a aussi des cheveux, en effet les sourcils, qui ne peuvent pas être atteints par la lèpre de la peau, mais il s'agit d'un autre type de lèpre, caractérisé par la chute de cheveux, dont le signe de l'impureté est un cheveu jaune. Ce type de lèpre ne peut frapper que le cuir chevelu, l'emplacement de la barbe et l'emplacement des sourcils, voire le rachash. Donc finalement, si les tefilines étaient posées là-bas entre les yeux, il s'agit d'un endroit qui pourrait être frappé par deux types de lèpre, comme nous l'avons dit, Deikar Seharlavan, dont le signe de l'impureté de l'un est un cheveu blanc. Il s'agit de la lèpre de la peau, Veikanami Seartsaov, et il y a aussi la lèpre dont le signe de l'impureté est un cheveu jaune. Il s'agit de la lèpre des cheveux. Forcément, on ne peut pas dire que la Torah voulait dire qu'il faut poser les tefilines entre les yeux. Par conséquent, comme l'explique le Sfat Emet, nous dirons plutôt que la Torah voulait dire que les tefilin doivent être posées sur la partie haute de la tête, c'est-à-dire sur le cuir chevelu. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Arba tzitziot me'akvot zo et zo » Les quatre tzitzit qu'il faut attacher aux quatre points d'un habit sont dépendants l'un de l'autre. S'il manque un tzitzit à l'un des quatre coins de l'habit, il est interdit de le porter jusqu'à ce qu'on l'attache. « Sharbatan mitzvahat » parce que ces quatre tzitzit ne forment qu'une seule et même mitzvah. Finalement, s'il manque un tzitzit, la mitzvah n'a pas été accomplie. Tandis que Rabbi Ishmael dit que les quatre tzitzit forment quatre mitzvot séparés. Cependant, il sera interdit de porter l'habit s'il n'y a pas les quatre tzitzit aux quatre coins. C'est pour cela que la Gemara demande « Maï Benayou, quelle différence y a-t-il entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Ishmael ?» Puisque de toute façon, il faut mettre les quatre tzitzit pour pouvoir porter cet habit et ne pas transgresser le commandement de porter les tzitzit. La Gemara répond « Amar Rav Yosef, Sadin Betzitzit Ika Benayou » La différence entre les deux avis, c'est dans le cas d'un drap, donc d'un habit de lin, en ce qui concerne la mitzvah de tzitzit. C'est-à-dire, dans le cas où il a accroché trois tzitzit de laine à trois des coins de cet habit. Le problème va se poser parce qu'il est interdit de porter un habit où il y a un mélange de lin et de laine. Cependant, comme nous le verrons plus loin, daf lametet amudbet, cette interdiction est levée en ce qui concerne la mitzvah de tzitzit. Dans le cas où il n'a accroché que trois tzitzit, par exemple parce qu'il n'avait pas le quatrième, selon l'opinion de Rabbi Ishmael où chacun des tzitzit est une mitzvah à part, finalement cette mitzvah repousse l'interdiction du chatnez qui est un habit où il y a un mélange de lin et de laine. Par conséquent, lorsqu'il porte cet habit, même s'il n'a pas le droit en regard de la mitzvah de tzitzit, il n'a toutefois pas transgressé l'interdiction de chatnez de porter un habit où il y a un mélange de lin et de laine. Parce qu'en se faisant, il accomplit quand même trois mitzvot de tzitzit. Tandis que selon le premier auteur de la Mishnah, qui considère que les quatre tzitzit ne forment qu'une seule mitzvah, dans le cas où il n'y a que trois tzitzit sur trois des coins de cet habit, il n'accomplit pas la mitzvah de tzitzit. Par conséquent, en portant cet habit, en plus du fait d'avoir transgressé le commandement de porter les tzitzit, il a aussi transgressé l'interdiction de porter un habit de chatnez où il y a un mélange de lin et de laine, puisque ces tzitzit qui sont en laine ne rentrent pas dans le cadre de l'accomplissement d'une mitzvah. Rava Barahina Amar, Talit Ba'alat Hamesh Ikabenayu. La différence qui existe entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Ishmael, c'est dans le cas d'un habit à cinq coins. Et cela parce que nous verrons plus loin, Daf Mem Gimel Amud Bet, qu'un habit à cinq coins est aussi concerné par l'obligation de porter les tzitzit, et non pas seulement un habit à quatre coins. La question va se poser, combien de tzitzit faut-il mettre à cet habit de cinq coins? Faut-il en mettre quatre ou cinq? Alors, selon le premier auteur de la Mishnah qui considère les quatre tzitzit comme n'étant qu'une seule mitzvah, nous considérons que lorsque la Torah a inclus l'habit de cinq coins pour l'obligation de mettre des tzitzit, c'est toujours dans le cadre de cette mitzvah qui est le fait d'avoir quatre tzitzit à quatre coins d'un habit. Selon lui donc, cet habit de cinq coins ne nécessitera que quatre tzitzit. Tandis que, selon Rabbi Ishmael, où la mitzvah est d'avoir un tzitzit à chaque coin, nous considérons que lorsque la Torah a inclus cet habit à cinq coins dans l'obligation de porter les tzitzit, ce sera toujours dans le cadre de cette mitzvah qui est d'avoir des tzitzit à chacun des coins de cet habit. Donc, dans le cas de cet habit de cinq coins, il faudra mettre cinq tzitzit. Ravina Amar, de Rav Huna Ikabenayhu. La différence qui existe entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Ishmael, c'est en ce qui concerne l'enseignement de Rav Huna. De Amar Rav Huna, parce que Rav Huna dit, Hayotze betalit she'enam yutsuyetzet keilchata beshabbat, celui qui sort dans un domaine public le Shabbat tout en portant un talit dont les tzitzit ne sont pas conformes à la halacha, chayav chatat, il aura l'obligation d'offrir un korban chatat pour avoir transgressé le Shabbat, en ayant porté cet habit avec des tzitzit défectueux. Et cela parce que même s'il est permis de sortir avec un habit, cependant, ces tzitzit ne sont pas considérés comme étant un bijou. Cependant, dans le cadre de l'accomplissement de la mitzvah, il est permis de les porter. En dehors de ce cadre, ces tzitzit qui ne sont ni un bijou ni nécessaires à l'habit sont considérés comme étant un objet à part qu'il est interdit de porter le Shabbat. Bon, la différence qui existe entre le premier auteur de la Mishnah et Rabbi Ishmael, c'est dans le cas d'un habit qui n'a que trois tzitzit. Selon le premier auteur de la Mishnah, il n'a pas du tout accompli de mitzvah en portant un habit avec ses trois tzitzit. S'il sort avec cet habit le Shabbat, il a transgressé le Shabbat, ces trois tzitzit sont considérés comme étant des objets à part qu'il est interdit de porter le Shabbat. Tandis que selon l'opinion de Rabbi Ishmael, où chaque tzitzit est une mitzvah différente, par conséquent, s'il porte un habit avec trois tzitzit, il a finalement accompli trois mitzvot. On ne considérera pas donc qu'il est interdit de les porter le Shabbat, parce qu'il reste dans le cadre de l'accomplissement d'une mitzvah. Ces tzitzit sont donc nécessaires à l'habit. Cependant, nous noterons que Rabbi Ishmael sera d'accord dans le cas où les tzitzit eux-mêmes sont défectueux, par exemple, si des fils ont été coupés. Ce tzitzit est donc pas soul. Finalement, puisqu'il n'est plus dans le cadre de l'accomplissement de la mitzvah, il sera interdit de sortir avec le Shabbat. Amar Rav Shisha Bere Deravidi, Hayman de Batzre Leglime, celui qui a diminué le pan de son habit, c'est-à-dire une personne qui avait un habit à quatre coins, qu'il voulait exempter de la mitzvah de tzitzit, il a donc coupé un des pans de cet habit en diagonale. Loavid Veloklum, il n'a rien fait, il n'a pas réussi à exempter cet habit de la mitzvah de tzitzit. Et cela parce qu'au contraire, Shavieh Talit Balat Hamesh, il l'a transformé en habit à cinq coins, qui reste toujours concerné par la mitzvah de tzitzit. Amar Rav Mesharchia, Haïman de Tzaire Leglime, celui qui a noué un des coins de son habit de manière à l'arrondir, Loavad Veloklum, il n'a rien fait. C'est-à-dire, il n'a pas réussi à l'exempter de la mitzvah de tzitzit. La Gemara demande Maïtama, pourquoi? Il répond, de Keman de Sharia d'Ami, parce que nous considérons que ce nœud est détaché. Et cela parce que il n'a pas coupé le pan de cet habit pour arrondir le coin, il l'a simplement noué. Il risque donc de l'ouvrir par la suite. C'est pour cela que le fait de l'avoir noué ne l'a pas exempté de la mitzvah de tzitzit. Utnan, effectivement, il est enseigné dans une Mishnah dans Maseret Kelim Perek Kavav Mishnah Dalet. Kol Hamatot Hatsurot Tehorot. Toutes les outres qui sont nouées au lieu d'être cousues sont pures. C'est-à-dire, une outre est faite à partir de la peau d'une bête que l'on a dépecée sans la couper, mais plutôt en quelque sorte comme si on l'a déshabillée. Cette peau a donc plus ou moins la forme d'un tuyau qu'il faut fermer d'un côté pour former un récipient. En général, pour fabriquer l'outre, un côté était cousu pour former ce récipient. Alors la Mishnah dit que si au lieu de coudre une des extrémités, il l'a nouée, ce récipient reste pur comme s'il était ouvert entièrement, parce qu'un nœud est destiné à être ouvert. Nous considérons donc qu'il est ouvert dès maintenant, il n'y a pas de récipient. Chutz Michel Arvim, à part les outres des Arabes qui eux ont l'habitude de nouer l'extrémité des outres, ils n'ont pas l'habitude de coudre, c'est donc la manière normale pour eux de fabriquer cet ustensile. Chez eux, le nœud n'est pas destiné à être ouvert. Par conséquent, nous considérons que le nœud restera pour toujours. Un récipient a été créé et il est susceptible de devenir impur. En tout cas, nous voyons qu'en général, un nœud est destiné à être ouvert et ne change pas le statut d'un objet. Donc là aussi, dans le cas d'une personne qui a noué les coins de son habit, son statut n'a pas changé. L'obligation d'y mettre des tzitzit reste toujours. Amar Ravdimi Minahardea Haïman de Chaïté Liglimé, celui qui a cousu le coin de son habit pour l'arrondir, sans couper le morceau qui est en trop, Loavad Veloklum, il n'a rien fait, il n'a pas réussi à exempter son habit de l'obligation des tzitzit. Et cela parce que Imita, s'il est vrai de l'homme Ivele, qui n'est pas intéressé par ce coin et qu'il voulait réellement l'arrondir, Lipsok Velishdeye, il n'avait qu'à couper le coin et jeter ce morceau pour l'arrondir entièrement. Donc le fait qu'il l'a simplement cousu et il ne l'a pas coupé, nous montre que son intention est de défaire un jour ses coutures. Par conséquent, le statut de l'habit n'a pas changé. Les tzitzit sont toujours obligatoires. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Rabbi Ishmael Omer, Arba Atan, Arba Mitzvot » Les quatre tzitzit sont quatre mitzvot différentes. Alors, la Gemara dit là-dessus « Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halacha que Rabbi Ishmael, la Halacha est comme Rabbi Ishmael. » Donc dans le cas que nous avons dit précédemment, par exemple, dans le cas d'un habit à cinq coins, il faudra mettre cinq tzitzit. Ou bien, dans le cas d'une personne qui sort le Shabbat dans la rue avec un habit qui n'a que trois tzitzit, nous ne considérons pas qu'il a transgressé le Shabbat. L'agma a conclu, Velet il cheta kevate, mais la halacha n'est pas comme lui, donc comme Rav Yehuda, mais la halacha est comme le premier auteur de la Mishnah. Ravina hava kaazil batre de Mar Barabashi. Ravina marchait derrière Mar Barabashi beshabta de Rigla, le Shabbat où l'on enseignait publiquement les lois des fêtes. Ifsik karna de chute, le coin du talit de Mar Barabashi s'est déchiré et les tzitzit sont tombés. Velo amarle velo mide, et Ravina ne lui a rien dit. Kad mata lebete, lorsqu'il est arrivé à sa maison, amarle, Ravina lui a dit, sache-le que mehata mifsik, déjà là-bas dans la rue, le coin de ton habit s'est déchiré. Amarle, Mar Barabashi lui a répondu, et amartli, si tu me l'avais dit à ce moment, mehatam shadite, déjà de là-bas dans la rue, je l'aurais jeté, c'est-à-dire j'aurais enlevé cet habit. Et cela parce que la halakha est comme le premier auteur de la Mishnah. Par conséquent, s'il me manque un tzitzit, les trois tzitzit restants quittent le cadre de l'accomplissement d'une mitzvah. Il est donc interdit de sortir avec le Shabbat. Ravina lui a demandé, Veha Amarmar, pourtant, il est dit ailleurs, Gadol Kvod Abriot, l'honneur des créatures est grand, Shedochet Lotase Shebatora, parce que l'honneur d'une créature repousse un commandement négatif de la Torah. Autrement dit, il serait permis de transgresser un commandement négatif de la Torah pour préserver la dignité d'un homme. Puisque c'est ainsi, il n'était pas nécessaire de t'humilier en public en enlevant ton talit. Il lui a répondu, Tirguma Rav Bar Sheva Kame de Rav Kahana. Rav Bar Sheva a interprété cet enseignement devant Rav Kahana.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.